Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Peut-être que si vous êtes un fervent des Jeux olympiques, là, un amateur là, qui prend des notes,
mm-hmm.
peut-être que vous vous souvenez qu'au jeu de Salt Lake City, on avait un snowboarder canadien.
Ouais, c'est loin un peu. Là.
En slalom, en descente. Non, mais tu sais, il y en a des férus là,
qui prennent des
notes, qui ont des photos, des archives. Là.
C'est clair.
Peut-être vous vous souvenez de notre snowboarder qui s'appelait Ryan Wedding.
Un nom de rockstar, je dirais. Là.
Moi, je m'en souvenais pas. Là.
Non, non. Peut-être qu'il est roux. Bon, ça me rapporte, excusez.
Ouais, mais il y a du lycra, là. On le voit pas, là. T'sais, c'est...
Je vais l'échapper.
Mais là, si je dis Ryan Wedding, là, aujourd'hui, vous n'allez pas faire référence aux Jeux olympiques.
Non.
Vous allez probablement plus faire référence à Pablo Escobar qu'aux Jeux olympiques. D'ailleurs, Pablo Escobar, c'est le nom que lui a donné Cash Patel. Cash Patel, c'est le FBI. C'est gros, là. T'sais, donc, ça sort aux États-Unis. Il y a un montant mis à prix sur sa tête. Et veux-tu pas que la presse nous a quand même pondu un extraordinaire dossier concernant Ryan Wedding. Qui est-il? D'où vient-il? Et surtout, où est-il? On va tous poser ces questions-là aux journalistes et chefs des enquêtes à la presse. C'est Vincent Larouche qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Larouche, bonjour.
Oui, bonjour.
En toute honnêteté, là, est-ce que vous vous souveniez, vous, avant de parler de Pablo Escobar, que ce gars-là avait fait les Olympiques?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais il n'y a pas eu une carrière si... Je pense qu'il est arrivé 24 ou 26e aux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Mm. Puis après, c'était fini. Là. Il n'y a pas eu d'autres participations dans les Olympiques suivants. Là.
Donc, si on reçoit, on essaie de retracer le chemin. Là. Lui, donc, quitte sa carrière, là, entre guillemets, comme vous dites, ça n'a pas été un si grand succès, mais il est allé quand même, on va lui donner.
Il est allé, oui.
Il est allé.
Mais... Il est meilleur que vous et moi.
Oui, c'est ça. On va lui donner ça là-dessus. Pour le reste, là, je pense que je suis meilleur.
Oui.
Mais mettons qu'on y va. Lui, est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui l'a amené là? Je sais que ça ne fait pas nécessairement partie de votre dossier, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y avait de mauvaises fréquentations?
C'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que c'est vraiment pas le portrait cliché, si on veut, du gars, par exemple, qui grandirait dans une famille brisée, là, dans la pauvreté, qui a pas d'opportunité pour s'en sortir, puis qui est obligé de peut-être commencer à vendre la drogue sur le coin de rue pour essayer de survivre. Là. C'est zéro le portrait de Ryan Wedding. Ça, c'est quelqu'un qui était dans une famille unie, bien en moyen, qui manquait de rien. Qui ont vécu, il a grandi en Ontario, mais ils ont vécu à différents endroits au Canada. Et ils l'ont poussé dans le snowboard. La famille était comme très investie dans le sport. Ils ont soutenu sa carrière jusqu'aux Olympiques. Il était bien entouré. Il y avait des possibilités dans la vie, des ressources. Il a même fréquenté un peu l'université. C'est pas quelqu'un qui avait aucune option.
Ouais.
Mais après la fin de sa carrière de snowboard, il s'est établi en Colombie-Britannique. C'est quelqu'un qui est très grand, très costaud, puis qui, à cette époque-là, faisait beaucoup là, de musculation, etc., se tenait très en forme. Il a commencé à travailler dans les bars en Colombie-Britannique comme portier.
Ouais.
Donc, doorman dans les bars. Et là, il a noué des liens beaucoup avec une faune un peu qui se mêlait au trafic de drogue là-bas dans l'Ouest canadien. Puis petit à petit, c'est décrit, tout le monde qui l'ont côtoyé décrit quelqu'un de comme très doué, très intelligent, qui était très bon dans tout ce qu'il faisait. Et donc petit à petit, il commence à côtoyer ces gens-là, commence à s'impliquer dans le trafic de drogue et il se révèle très bon. Capable de bâtir une entreprise florissante, à succès d'importation de cocaïne. Et un moment clé, c'est qu'il s'est fait prendre en Californie aux environs des années 2010, là, et il a fait de la prison là-bas. Il avait été condamné à 4 ans, je pense qu'il a fait un peu moins finalement. Mais il a fait de la prison en Californie, aux côtés de toutes les autres importateurs, puis les relations des cartels mexicains, puis tous ces gens-là qui sont comme connecté sur les réseaux d'importation de drogue. Et puis là, quand il est ressorti de prison, il est venu s'établir à Montréal. Il était rendu très, très, très bien connecté avec des contacts à l'international, une meilleure connaissance de la business, de comment ça fonctionne. Et là, son empire a vraiment pris son essor, puis il est devenu, aujourd'hui, il est considéré comme le plus gros importateur de cocaïne vers le Canada et une partie aussi vers les États-Unis. Tout ça passe à travers les États-Unis, c'est pour ça que les Américains s'intéressent à lui, mais la majorité finit au Canada.
Parce que je regardais, là, je cherche le chiffre, mais c'est époustouflant, là, tu sais, la quantité qui était.
Ouais.
Là,
vous me parlez 60
tonnes. 60 tonnes, ça, c'est pour le marché
année.
Américain. Donc,
Non, c'est parce que ça passe par les États-Unis, mais il y en a une partie qui continue vers le Canada après.
Ah, okay,
mais 60 tonnes par année, c'est gigantesque. Ils estiment $1 milliard de chiffre d'affaires, $1 milliard US en plus, de chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est gigantesque.
Donc, là, bien évidemment, on a entendu parler via les autorités américaines. J'ai nommé Cash Patel, le directeur du FBI. Il y a aussi la procureure générale, Pam Bundy, qui était là, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, parce qu'on a arrêté un de ses complices, qui, lui, est un chef de gang montréalais. Donc, c'est ce qui relie tout ça, ce que vous venez de dire, à son réseau qui est établi à Montréal. Oui. 7 Canadiens arrêtés. Et lui est toujours en cavale. D'ailleurs, la prime a augmenté là, de 10 à 15 millions de dollars.
Oui.
Et il y a aussi l'histoire de son ancien collègue qui avait accepté de le dénoncer au FBI, assassiné. Donc, non seulement on a affaire, comme vous venez de le décrire, parce que, tu sais, là, ce que vous nous avez donné comme histoire, c'est quasiment une histoire de succès. Là. Le gars est intelligent,
oui.
Il est capable de bâtir des réseaux, il est capable de s'établir, de faire passer les choses, Par contre, là, on ajoute
la
capacité exacte à être très violent et sans remords, là, parce qu'on dit qu'il a fait assassiner des proches, là, des gens qu'il connaissait.
C'est ça. Et puis là, c'est la raison pourquoi hier, on a toute la haute gomme là, de l'administration Trump à Washington qui sort pour parler de ce Canadien-là. Si c'était juste un gars qui transporte de la cocaïne, bon, déjà, il s'intéresserait à lui, mais on n'aurait pas eu tous ces hauts responsables-là qui viennent faire une conférence de presse pour parler de lui. La raison pourquoi il le dépeigne aujourd'hui comme l'ennemi public numéro un des gars les plus recherchés par le FBI, c'est parce que le FBI avait réussi à obtenir la collaboration d'un ancien trafiquant originaire de la région de Montréal qui travaillait pour le réseau de Ryan Wedding. Et donc, lui devait témoigner contre Wedding. Si un jour on arrivait à lui mettre la main dessus, là, c'était le témoin clé du FBI pour faire condamner Wedding pour trafic de drogue. Et pendant qu'il était toujours en cavale, Ryan Wedding a envoyé des équipes de tueurs à ses trousses partout autour du monde, et là, dans plusieurs pays, vraiment, pour le traquer, ce collaborateur de la justice. Ils ont fini, puis ça n'a pas été facile, mais ils ont fini par le retracer. Ils lui ont tendu un piège et là, ils ont décrit ça, ils appellent ça des sicarios, même le FBI dans leur description des films, des tueurs à gage de Ryan Wedding qui se sont rendus pour l'assassiner en Colombie. Et donc, le fait de tuer comme ça un témoin clé qui devait venir à la cour, qui travaille pour le FBI, là, on tombe dans une autre pigle. C'est quelqu'un qui était prêt à aller jusque-là, mais pour le FBI, ils doivent traiter ça comme une priorité absolue. Quand il y a du monde pour collaborer comme ça, ils doivent leur dire, on va te protéger, inquiète-toi pas, prend les moyens, personne va pouvoir t'atteindre. Et là, c'est un échec pour eux, puis ils doivent démontrer qu'ils prennent ça au sérieux, qu'ils prennent des mesures, puis les prochaines personnes qui vont collaborer doivent se sentir en sécurité qu'on fait quelque chose. Là.
C'est pour ça.
Qu'on a tous ces hauts responsables.
C'est là que je m'en allais, justement, parce que je me disais, quand ça ne donne pas le goût à n'importe quel autre informateur de, dans l'avenir, donner de l'info au FBI.
Même pour 15 millions. La vie,
l'autre a eu quand même, je lisais, 5 balles dans la tête. Là, fait qu'on a envoyé un message, non pas une balle, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5.
Non, c'est ça. C'était. Puis ensuite, Ryan Wedding s'est félicité. Ils ont intercepté des messages où ils disaient, ça y est. On a éliminé le témoin clé, la cause va s'effondrer, il était content. Et aussi, dans l'enquête, ce qu'ils ont découvert, c'est que lui était prêt à éliminer, il était complètement impitoyable, il était prêt à éliminer n'importe qui risquait de parler aussi. Et il y avait un complice qui était un avocat au Canada. Et donc, quand les camionneurs, par exemple, qui transportaient sa marchandise se faisaient stopper par la police, là, cet avocat-là pouvait dire, regardez, je vais vous représenter, les gars, je suis votre avocat, inquiétez-vous pas. Et là, il surveillait. Et il rapportait au chef de l'organisation. Donc, oh, lui a l'air d'être ouvert peut-être à parler. Lui a peut-être un rite qui collabore. Il va peut-être plaider coupable. Et ensuite, Wedding, dans des échanges de messages qui ont été interceptés, il montrait qu'il était prêt à faire tuer tous ces gens-là, éliminer n'importe qui était capable de parler. Il disait, moi, ça me dérange pas, s'il faut qu'on tue tout le monde, on ferme ce dossier-là, puis personne ne va pouvoir parler. Là. Donc, vraiment, c'est ce côté impitoyable, violent, prêt à tuer n'importe qui pour garder le contrôle de son organisation. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il pointe du doigt comme l'ennemi public numéro un aux États-Unis. Là.
Évidemment, qui dit cocaïne dit bon ben probablement qu'il y a des cartels d'impliqués ou des groupes criminels sud-américains ou mexicains. Et c'est le cas, selon l'article que vous avez écrit, Ryan Wedding est protégé et très proche du cartel de Sinaloa. Si vous suivez un peu là, l'actualité qui concerne justement ces groupes criminels-là, ben, le cartel de Sinaloa, d'après moi, si c'est pas le plus puissant, c'est pas loin d'eux. Donc, il y a beaucoup d'amis aussi très bien placés dans le criminel. Là.
Oui, puis c'est la raison pourquoi ils n'ont pas été capables de lui mettre la main au collet, malgré la grosse récompense. Là, ça vient d'être augmenté à 15 millions pour quiconque aide à le faire attraper. Mais oui, il est protégé au Mexique par ce cartel très, très, très puissant qui a des contacts dans le gouvernement, dans l'armée, dans la police, etc. Et donc, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas été capable de l'arrêter. Mais écoutez, les Américains ont dit hier, on attrape toujours notre homme, faites-nous confiance, on va finir par l'épingler. Et ça m'a beaucoup frappé parce que on sait que les États-Unis ont fait des frappes récemment contre des bateaux qui sont soupçonnés de transporter de la drogue. Ils envoient des missiles puis ils les font carrément sauter dans l'océan. Mais il y a un journaliste à la conférence de presse américain qui a posé la question à la procureure générale des États-Unis en disant « Peut-être, avez-vous pensé peut-être lui envoyer une frappe militaire, un missile, quelque chose pour l'éliminer? » Puis elle a dit « On discutera pas des plans du département de la guerre pour aujourd'hui, mais on parle à tout le monde qui est impliqué dans le dossier. »
Ouais, puis c'est une, faut pas oublier là, que c'est une gifle envers les autorités américaines parce que justement, ils n'ont pas été capables de protéger, ils sont pas capables de l'attraper. Je veux revenir sur le cas du chef de gang montréalais, Atna Ona, qui a été arrêté, ainsi que 7 autres Canadiens. Est-ce qu'il y a autre chose à dire concernant ces implications toujours en place dans le coin de Montréal? Est-ce qu'il y a d'autres gens peut-être qu'on s'attend à voir mettre en état d'arrestation? Est-ce qu'on a de l'info? D'ailleurs, c'est qui Atna Ona? Est-ce que c'est le chef d'une gang très connue à Montréal?
Bien, c'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup la manchette nécessairement, mais c'est le chef c'est un chef de gang émergent, si on veut, qui menait une espèce de révolte ou de contestation de la domination des Hells Angels dans la région de Montréal, un peu comme vous avez connu à Québec avec d'autres gangs.
Avec le Blood Family Mafia.
Ben, c'est ça, qui faisait la même chose, qui disait, nous, dans le fond, pourquoi on travaille toujours sous la domination des motards.
La nouvelle génération,
Exactement.
Criminelle, oui, c'est ça.
Bon, ben lui, Atna Ona, donc alias Tupac, là, qui se faisait surnommer, c'est un peu la même dynamique à Montréal. Quelqu'un qui a fait des contrats pour toutes les grandes organisations criminelles, mais qui essayait de les débarquer, de les déstabiliser puis de prendre sa place au cours des dernières années. C'est un parmi d'autres, là, mais il prenait beaucoup de place, il était très influent dans ce milieu-là. Et là, la théorie du FBI, c'est que Wedding s'est tourné vers lui pour lui demander son aide pour faire assassiner ce témoin gênant là, qui devait témoigner à la cour. Donc, ils le considèrent, eux, comme un tueur à gages au service de l'organisation de Ryan Wedding. Puis qui a réussi justement à faire retrouver ce gars-là caché en Colombie puis à organiser son assassinat alors qu'il était censé être protégé par la justice américaine. T'sais. Donc on voit c'est quelqu'un qui effectivement jouait dans les grosses ligues et qui était capable de rendre ce genre de service-là même à l'international en débordant des frontières du Québec. Là. Donc maintenant, il se retrouve avec une demande d'extradition aux États-Unis puis il risque certainement une peine beaucoup plus lourde là-bas que ce qu'il aurait pu entrevoir ici dans son parcours criminel jusqu'à date. Là.
Quelle histoire incroyable. Puis on va évidemment se tourner vers la presse pour la suite des choses. Je tenais quand même à vous féliciter. C'est tout un dossier. Merci.
Bien, on va continuer à suivre ça. Inquiétez-vous pas.
Merci de mettre tout ça à notre attention. Et ça a été un plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci, bonne journée.
Au plaisir. C'était Vincent Larouche, journaliste et chef des enquêtes à la presse. Si vous voulez avoir tous les détails, ben, les articles sont là sur le site de la presse. 13h44.
Hey, tu le dénonces pas, hein?
Ben,
non, mais je veux... sais, c'est ça qu'on se disait là, juste avant qu'on aille à la pause, là, c'est que tu, mettons, tu le croises dans la rue, là, déjà que tu sais qu'il y a un témoin protégé par l'FBI, qu'on a réussi à le retrouver pareil, puis il est mort de 5 balles dans la tête. Mettons, tu le croises à la plage, ça n'arrivera pas.
Ils l'ont pas retrouvé au centre-ville de Montréal, le gars, là, il était caché à Medellin, dans le fond. Écoute, ils l'ont retrouvé, là. Partout dans le monde. Ils ont dit, cherchez-le, trouvez-le, tuez-le.
Ouais, exact.
Ben, en tout cas, si tu le dénonces, Pat.
Non.
Ben non, mais si jamais ça te passe par l'idée... Non, mais mettons, là, tu le dénonces. Ben, je t'invite à changer de vie, changer de nom, changer de face.
Oui.
Puis achète-toi un petit îlot tout seul, isolé, dans le fin fond du Pacifique. Tu vas avoir 15 millions, ta vie va être plate, par exemple.
Ouais, c'est ça. Ça va être long, longtemps.
Je t'invite à plus communiquer avec tes parents.
Je vais rester pauvre. Je vais rester...
ni tes frères, ni tes soeurs, personne.
Ouais, je vais rester heureuse et pauvre.
Bon, en tout cas... On pensait à ça, on vient.
Ouellette. Vraiment, là, ça coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.